Allo Ciné présente Rencontre.
Le réalisateur Jean-Jacques Hano est l'invité de notre podcast Rencontre. On le retrouve pour la deuxième partie de cet entretien consacré à la ressortie au cinéma du Nom de la Rose. Sorti initialement en 1986, ce film à suspense avec Sean Connery et Christian Slater a connu un vif succès public en France avec 5 millions d'entrées. Avec Jean-Jacques Hano, nous allons justement revenir sur l'accueil reçu par le film à l'époque et aussi un peu plus tard dans la conversation sur une scène du film qui a beaucoup fait parler.
Là, ce qui était bien dès le départ, c'est que malgré les mauvaises critiques italiennes, j'ai eu d'excellentes critiques en Allemagne, quelques mauvaises critiques aussi. Et curieusement, comme je le répète, en France, c'était pas mal. Il y a eu une première vague très favorable, et puis après, forcément, les gens qui veulent se démarquer, les journalistes veulent se démarquer, c'est normal. C'est plus amusant de lire une mauvaise critique qu'une bonne critique. De dire que oh, le film est formidable, c'est ennuyeux pour ceux qui les écrivent. Je comprenais tout ça, sauf que c'était douloureux, hein, je ne veux pas vous cacher ça. Il y a quand même des choses qui me marquent. Vous voyez, quand j'ai décidé, après le film L'Amant, d'aller vivre aux États-Unis, j'ai quand même eu la chance d'avoir un article dans Libération qui s'appelait Bon débarras. Là, sur le Nom de la Rose, il avait dit que ça puait la maquette, alors qu'il n'y a pas une seule maquette, tout est dans le décor réel. Je suis content d'avoir tenu bon contre l'avis général et de me dire, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, et tant pis pour eux, tant pis. Jusqu'au jour où on me financera, puis le jour où on ne me financera plus, mais ça, à chaque fois c'est une galère. Je vois des jeunes confrères qui sont très étonnés que je galère comme un fou depuis le début de ma vie pour financer mes films. Alors on me dit, mais pourquoi avec tous les succès que tu as eus? Mais oui, mais je propose un truc qui n'est pas comme le film d'avant. Ah, ben évidemment, si je veux faire le Rose numéro 2, ça ira très vite. Si je veux faire le Nom de la Rose 2, comme on l'a proposé d'ailleurs, de faire la série télé, j'ai refusé. Comment voulez-vous que je fasse, après Sean Connery, Christian Slater, Valentina Vargas, comment je peux imaginer faire une série télé avec d'abord beaucoup moins de moyens, donc un luxe d'image qui n'existera pas. Quand je dis un luxe, une puissance d'image qui n'existera pas. Si vous faites des grands décors qui servent à rien, c'est stupide, mais si vous faites un décor qui va raconter une partie de l'histoire et qui est nécessaire aux propos, là ça devient passionnant et ça plaît aux gens. À l'époque on me disait que je m'intéressais trop aux détails. Quand vous faites une reconstitution qui se passe au XIVe siècle, oui, j'ai fait refaire tous les objets. Je fais refaire le monastère en entier, mais chaque détail, chaque pinceau, chaque peau, chaque cuillère, chaque vêtement, c'est des tissus qu'on a fait tisser par des spécialistes au Maroc, etc. Ça permet au spectateur d'entrer plus agréablement dans le sujet et de croire à l'histoire au lieu d'être frappé par des incohérences. Moi, ce que je pense, c'est que le public est incroyablement savant et encore malin et que le public est beaucoup plus intelligent que les metteurs en scène. Je me situe là parmi les metteurs en scène. Donc, il faut essayer d'être aussi intelligent que le public et aussi exigeant. Et donner ce que je pense aussi, si vous voulez, il y a tellement de chefs-d'œuvre qui ont été faits au cinéma depuis 125 ans ou 130, je ne sais plus maintenant. Si on ne se donne pas un peu de mal, si on n'est pas différent, mais pourquoi les gens iraient au cinéma? Pour quelle raison étrange? Ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, les gens font attention à ne pas dépenser leur argent à tort et à travers. Donc pour les motiver, il faut qu'ils sentent chez le créateur, alors je reviens sur le mot créateur, la création c'est pas la copie, la création c'est l'invention. Alors si on n'invente pas, on fait quoi? On fait une espèce de soupe qu'on a déjà bouffée la veille. Donc si vous voulez, tout ça a fait qu'effectivement des gens me disent, mais pourquoi vous ne faites pas plus de films? Alors j'en ai fait 15, depuis ma sortie des écoles de cinéma, je n'ai pas arrêté, je fais que ça nuit et jour, j'ai envie de dire. Ça me prend beaucoup de temps, chaque film me prend 3 ans et demi, 4 ans.
J'ai relevé une expression, vous avez parlé de puissance d'image et c'est vrai que c'est quelque chose qui me frappe quand je me souviens du Nom de la Rose. Alors on l'a découvert à différents âges, mais moi je ne l'ai pas vu en salle, mais je devais avoir à peu près 10 ans, oui. Et j'ai eu des images très fortes où c'est un film qui peut aussi faire peur. Il y avait des images, ça lorgnait un petit peu vers le
fantastique parfois.
Oui, voilà. Et je me demandais, alors aussi bien pour ces images qui pouvaient faire un peu peur, donc quand on voit les morts, ou aussi il y a une scène qui a beaucoup fait parler, je ne sais pas si vous aurez envie d'en reparler aujourd'hui, mais où on voit Christian Slater et Valentina Vargas se rencontrer, et qui est une très belle scène, mais qui est, je trouve, était assez puissante. Voilà, il y avait une puissance d'image, comme vous dites. Ben,
vous savez, le cinéma, c'est pas de la radio. Très souvent, les films, c'est de la radio filmée. Donc, on illustre le dialogue par des gens qui causent. Bon, ça s'appelle talking heads en anglais. Pour moi, le cinéma, c'est d'abord l'image qui est porteuse d'histoire et de sentiments. Que j'ai envie de dire, mon deuxième partenaire de narration, c'est la musique. Et j'ai envie de dire, le dialogue passe en troisième position. Parce qu'en fait, vous savez, les gens comprennent beaucoup mieux les expressions et le body language, l'attitude, que le détail des mots. C'est ça qui, même à la télévision, vous savez, quand vous avez tous ces politiciens qui parlent avec des mots compliqués. Mais les gens, ils savent, oh, celui-là, il dit la vérité ou celui-là, il ment. Mais c'est ça qui est important. Et donc, le cinéma, effectivement, pour moi, c'est d'abord et avant tout la puissance de l'image. La puissance de l'image, c'est quoi? Bah, évidemment, des acteurs qui captent l'attention, mais dans des décors qui eux-mêmes racontent une partie de l'histoire. Quand vous me faites parler d'images qui peuvent faire un peu peur, et vous savez, les labyrinthes intérieurs, les tunnels qu'il y avait dans les monastères, c'est assez effrayant en vérité. Surtout quand on est éclairé à la lanterne ou à la bougie. Quand il y a effectivement des morts qui se succèdent et dont on ne connaît pas l'origine, tout ça, il y a une tension dramatique. Et encore une fois, je reviens au tout départ. C'est pour ça que les Grecs, en particulier Aristote, quand il écrit la poétique, il donne toutes les clés. Et je conseille à tous les gens qui font du cinéma de lire la poétique d'Aristote. Ce n'est pas la peine d'aller à l'école de cinéma pour avoir des cours par des professeurs qui n'ont pas une carrière remarquable. C'est la vérité. Vous savez, Woody Allen dit un truc très juste. Quand on peut faire, on fait. Quand on ne peut pas faire, on enseigne. Et quand on ne peut pas enseigner, on enseigne la gymnastique. C'est normal. Mais commençons par le début. Aristote raconte comment raconter une histoire. Voilà. Et comment la synthétiser, comment ellipser. Mais ça, les gens, ils savent même plus ce que c'est. Comment ne parler que des moments essentiels, comment les enchaîner, comment laisser une scène en suspens, tout ça est là-dedans. Alors que tout ça soit mélangé avec l'humour d'Umberto Eco. Et quand vous me dites parler de la scène d'amour, j'en suis très heureux de cette scène d'amour. Parce que c'est une scène. Vous savez, j'avais décidé de choisir le jeune homme avant de choisir sa partenaire. Lorsqu'il a fait les essais, le hasard du calendrier a fait que c'était Valentina Vargas qui était en premier. Je dis à la fin du tournage, rendez-vous demain pour... Nous avions une actrice italienne qui est devenue d'ailleurs tout à fait célèbre, et une actrice espagnole qui l'est aussi. Et la mère de Christian Slater vient me voir, elle me dit « Je suis désolé, c'est tellement pas professionnel, j'ai honte. » Car elle était aussi mon casting directeur. Et elle voulait pas que je prenne son fils, elle le trouvait nul. Bon. Et donc, elle me dit « Christian, non. » N'envisage pas de pouvoir faire la scène avec quelqu'un d'autre que Valentina. Il est tombé raide dingue amoureux. Je lui dis, mais Marie-Jo, c'est pour ça que je l'ai choisi d'abord. Si Valentina lui plaît, elle me plaît aussi. Je pense qu'elle sera très bonne. Donc c'est d'accord, on va prendre Valentina. Et là, quand j'ai fait, pour préparer la scène, j'ai expliqué la scène à Valentina. Et je lui ai dit, je t'interdis d'en parler à Christian. C'est ta scène, c'est toi qui es à la manœuvre. Et lui, il ne sait pas ce que tu vas lui faire. Et je ne veux pas que tu lui dises. Et elle a résisté. Et il était dingue, parce qu'il n'avait jamais, je crois, vu de femme déshabillée devant lui. Il n'avait jamais connu la chaleur d'un corps contre le sien. Et évidemment, ça, vous savez, c'est une scène que je n'ai pas répétée, que j'avais expliquée dans le décor avec Valentina et mon chef opérateur. Mais effectivement, quand Valentina a déshabillé ce jeune homme, mais j'ai vu la chair de poule le gagner. Et quand elle l'a pressé contre elle, c'était très beau. Il y avait une émotion extraordinaire. Et après, quand j'ai fait la scène d'après l'amour, où je leur ai expliqué que c'était un moment de tendresse, de détente, mais c'était très beau aussi, parce qu'il y avait de la tendresse entre eux. C'est bien entendu, tout ça est simulé. Moi, je n'autorise jamais qu'il y ait... Je fais pas du porno. Même, ça m'épouvante. Mais raconter le sentiment, c'est une chose très délicate. Et c'est en fait les seules scènes que je redoute. Moi, vous savez, diriger 1000 cavaliers ou 3000, ça me va très bien. C'est très facile à faire. Il faut répéter, simplement, avoir des bons techniciens autour de soi. Réussir une scène d'amour, c'est très très compliqué. Et si vous répétez une scène d'amour, ça devient complètement ridicule. Attendez, dans la vie, vous ne répétez pas une scène d'amour quand même. Vous ne dites pas, allez, on va faire comme ci, comme ça, puis on s'y met. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc là, effectivement, il y avait d'ailleurs une émotion sur le plateau. En plus, là encore, j'ai l'autorisation de le dire, les deux séparément sont allés voir mon conseiller religieux pour se faire bénir avant la scène. Parce que Valentina était très pieuse et elle a voulu être certaine, elle était très, très catholique, que c'était correct de faire cette scène. Et mon conseiller technique était le grand ami de Fellini, qui s'appelait Padre Arpa, qui avait défendu Fellini pour la Dolce Vita. Grosso modo, lui a dit « Dieu est amour, vous pouvez y aller tranquillement ». Quelque chose comme ça. Et curieusement, le petit Christian Slater avait aussi séparément été demandé au père Arpa. Donc si vous voulez... Il y a autre chose qu'une scène d'amour. Il y a le moment de la découverte de la sensualité, du désir, de l'accomplissement du désir. Et ça, c'est compliqué à faire. Ça me prend beaucoup plus de temps et de tension que d'agiter un plateau avec une charge. Vous savez, quand j'ai fait Enemy at the Gates, Stalingrad, bon, j'avais très souvent 1500 figurants. C'est compliqué, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de blessés, des choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec la délicatesse d'une scène de tendresse. Donc, mais ça fait partie, vous voyez, je tenais à ce mélange parce que c'était déjà dans le livre, on sentait, Umberto Eco était un grand savant, un sémioticien, vraiment un spécialiste de la langue, etc. Mais c'était aussi un bon vivant, c'était un rigolo, c'était comme Sergio Leone qui venait souvent sur mon plateau. C'était des gens agréables, gais, et qui ne se prenaient pas la tête, voyez, alors qu'ils étaient extrêmement compétents. Ce qui est terrible, c'est les gens qui se prennent pour de grands artistes et qui font chier tout le monde. Eux, c'étaient des géants, voilà, et des géants drôles, et capables, effectivement, de parler de l'amour, mais aussi de parler de théologie.
J'avais une dernière petite question. Le nom de la rose ressort. Il y a l'ours qui était ressorti il y a quelque temps. Si vous pouviez choisir un autre film que vous pourriez ressortir, soit parce que vous estimez qu'il n'a peut-être pas été assez vu, ou parce que c'est un film auquel vous tenez particulièrement, quel pourrait être le prochain ?
Écoutez, j'apprends que mon tout premier film, qui m'a valu un Oscar, du meilleur film étranger à Los Angeles, à Hollywood, va ressortir aussi rénové. Et c'est un film que j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup à ce que j'étais quand j'avais un petit 30 ans. Et qui était un... Je m'étais juré de faire mon premier film en Afrique et sur l'Afrique. L'Afrique m'a énormément ouvert le cœur. Je ne suis pas la même personne depuis que j'ai rencontré l'Afrique. Et j'ai fait c'était une comédie, mais une comédie satirique, assez acidulée. Et en fait, c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de succès en France, jamais, mais qui est un film qui a très très bien marché aux États-Unis en particulier. J'avais fait plus de recettes qu'un homme et une femme. C'est vous dire. Et dans certains pays, il n'y a pas longtemps, j'étais encore en Afrique du Sud. C'est un film qui est un de mes films les plus célèbres là-bas, parce que c'est un film qui parle véritablement de l'apartheid, d'une certaine manière, mais avec humour. Et du coup, c'est un film qui avait été vu comme une dénonciation de l'apartheid. Et ça me fait très très plaisir que ce film soit connu à ce point dans plein de pays. Et oui, en France, je pense que comme le film était un peu, oui, acidulé, et parlait du comportement des coloniaux, c'est peut-être ce à quoi on assiste actuellement, je sais pas, avec les problèmes que la France a au Sahel. Moi, j'ai connu ça il y a tout à fait longtemps et j'en ai parlé, mais avec humour. Et puis un jour, ça se retourne contre le colonisateur. Donc enfin, voilà ce que j'apprends et c'est un film que j'aime beaucoup.
Donc c'est La Victoire en chantant.
La Victoire en chantant qui s'appelait aussi Black and White in Color. Oui, oui, parce que La Victoire en chantant, ça signifie rien en anglais. Vous traiterez Singing Victory, d'accord. Oui. Donc on avait pris un titre qui nous amusait quand je faisais le montage, parce que je montais sur une copie noir et blanc, et que c'était un film à propos des noirs et des blancs, et que c'était en couleur. Et donc ça s'est appelé Noir et blanc en couleur, et donc Black and White in Color.
Votre actualité, c'est Le Nom de la Rose, qui ressort le 21 février au cinéma, et par la suite, il sortira en coffret DVD Blu-ray, avec beaucoup de bonus. J'en profite pour rappeler la sortie d'un livre il y a quelques années, en 2018, qui s'appelle Une vie pour le cinéma, dans lequel vous racontez plein d'anecdotes sur tous les films que vous avez réalisés et c'est passionnant, ça a été édité chez Grasset et je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir dans les locaux d'Allociné. Merci beaucoup Jean-Jacques Hanau.
Merci pour vos questions.
Merci. Allociné.